16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque un club tristement célèbre, le club des 27, auquel appartiennent ces stars de l'histoire décédées à 27 ans. Après Charles VIII et Joseph Méric, dit Elephant Man, vous nous brossez, Mathieu, aujourd'hui le portrait à 99% vrai de la regrettée Amy Winehouse.
Pour qui s'intéresse un peu comme moi à l'onomastique, qui est, comme vous le savez tous,
l'étude des noms propres.
L'étude des noms propres, il y a un qui est cultivé autour de cette table, effectivement. Le destin d'Amy Winehouse, littéralement, vous le disiez hors antenne Stéphane avec beaucoup de chic, Amy maison à vin, est un triste cas d'école d'une personnalité sur qui son patronyme a eu trop d'influence. Notez que l'inverse arrive aussi parfois, CF Jean-Jacques Debout. Plus qu'un portrait, Stéphane, c'est à une véritable plongée vertigineuse dans les méandres les plus toxiques du showbiz que je vous invite cet après-midi. Alors, on le sait, l'univers du showbiz, en tout cas avant la pandémie de Covid, la fermeture des cinémas, des théâtres, la fin des concerts, bref, avant de devenir à peu près aussi excitant que l'univers de la banque assurance, l'univers du showbiz était un monde sulfureux où les tentations étaient partout et où à chaque instant de chaque soirée, on pouvait tomber sur un dealer qui nous disait
« Ça t'intéresse d'acheter du vin, Mathieu Noël ?»
Moi, j'étais naïf, j'étais jeune, quasiment un enfant, ça m'intéressait forcément. Notre héroïne du jour, et c'est hélas le cas de le dire, a rencontré un dealer encore plus pervers qu'Olivier Pouls, d'autant que c'était son propre mec. Amy Winehouse a rejoint le Club des 27 en juillet 2011. On rappelle ce qu'est le Club des 27, même si on l'a déjà un peu dit dans cette émission. La preuve que le Club des 27, c'est la preuve que de Basquiat à Brian Jones, le fondateur des Rolling Stones, en passant par Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison et Kurt Cobain, les meilleurs partent à 27 ans. L'exception confirmant la règle étant Demis Roussos, qui lui a pris du rab. Amy Winehouse, c'est une voix unique du jazz, puissante, souvent comparée à Ella Fitzgerald, Macy Gray ou Sarah Vaughan. Si vous entendez « Love is a losing game », l'amour est un jeu où l'on perd à tous les coups, inspiré de l'amour non réciproque qu'un jeune franco-portugais, lui-même devenu cocaïnomane par la suite, vouait à une camarade de classe nommée Constance, qui préférait les mecs rebelles au faillot bilingue du premier rang qui n'aimait pas les tags. Amy Winehouse, c'est une étoile filante bourrée qui a traversé la galaxie aseptisée de la pop des années 2000 avant d'exploser en plein vol. Elle voit le jour le 14 septembre 1983 à Enfield Town, dans le nord de Londres. Sa mère, pharmacienne, s'appelle Janis, comme Janis Joplin, je l'aime bien. Son père, chauffeur de taxi, s'appelle Mitch, comme le méchant dans une sitcom américaine, je l'aime moins. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pourtant ce Mitch qui lui fait découvrir le jazz à travers Frank Sinatra. Amy raconte que son papounet lui chante Fly Me to the Moon à chaque fois qu'elle est convoquée par la directrice de l'école en vue de son renvoi. Comme vous l'imaginez, Amy a très souvent entendu Fly Me to the Moon. Le circuit scolaire conventionnel. Là, Stéphane a tenté de claquer des doigts. Évidemment, pas sur le bon temps, mais c'est quand même une belle tentative, Stéphane.
Ne vous moquez pas, vous savez, j'adhère à votre récit, je vibre.
Oui, vous vibrez, vous claquez des doigts,
Amy,
c'est
Amy
très
Winehouse
beau.
En plus.
Alors, Amy est acceptée dans une école de théâtre, mais elle s'en fait expulser à l'âge de 14 ans pour manque d'assiduité et piercing à la narine. Alors, elle s'enferme dans sa chambre et commence à écrire des chansons. Un camarade de classe, James Tyler, l'encourage à envoyer une de ses démos. Un an plus tard, elle signe son tout premier contrat avec une maison de disques. Et en 2003, son premier album, c'est Frank, un titre clin d'œil évidemment à Sinatra. Et il est numéro 3 en Angleterre et succès critique. Amy a à peine 19 ans. C'est à cet âge pivot qu'elle prend une direction diamétralement opposée à celle de David. Pendant que lui consacre toutes ses nuits à la révision de ses partiels à la fac, tout en dénonçant anonymement à la mairie de Paris ceux des camarades de classe qui se livrent au graffiti sur du mobilier urbain, Amy, elle, consacre ses nuits à faire la fête. Elle s'engage aussi dans une relation tumultueuse avec Blake Fielder Civil. Alors les filles, oubliez les mecs vieux jeux qui vous offrent des monchéris à la Saint-Valentin. Blake, lui, c'est plutôt du genre à offrir des sachets de kétamine. Et ce qui devait arriver arriva, Amy devient accro aux drogues dures et à Blake, qu'elle épouse à Miami en mai 2007. Alcool, amour, kétamine, bientôt cocaïne, l'engrenage fatal est en place. C'est extrêmement dur, vous le savez, de se guérir d'une addiction. Que faire, David, face à un saladier de cocaïne ?
Faut ajouter un œuf.
Non, ça ne marche pas. Il faut accepter de faire ce que personnellement vous n'avez jamais accepté de faire, aller en cure de désintox, en rehab. Pas de claquement de doigts là, Stéphane ?
Non, voilà.
Seulement voilà, Amy, Amy ne veut pas y aller. Et comme elle le chante dans un des plus beaux albums des années 2000, Back to Black, qui lui vaut 5 Grammy Awards, personne autour d'elle, évidemment, n'ose trop la forcer. Y compris son gentil papounet qui, donc résumé du personnage, s'est taillé de la maison lorsqu'elle avait 9 ans et a miraculeusement réapparu quand Eh bien, quand sa fille est devenue une superstar millionnaire, tiens, certainement une petite coïncidence. On est en 2007, Amy monte aussi haut dans les charts et l'estime du public qu'elle descend dans les limbes de l'autodestruction. Cette phrase est de moi, vous pouvez la noter. Ses abus divers et variés commencent à impacter ses performances. Quand Amy boit avant de monter sur scène, ça s'entend dans la salle, forcément, le public commence à la huer. Le 8 août 2007, elle fait une overdose après une énième tournée des bars. Dans son sang, le cocktail dit du grand chelem, héroïne, cocaïne, ecstasy, kétamine, whisky et vodka.
Moi, ça me dégoûte.
Vous avez raison, mélanger whisky et vodka, quelle hérésie. Enfin, les Anglais et le bon goût, vous savez. Bref, sa tournée prévue en Amérique du Nord est annulée. Peu de temps après, la police fait une descente chez elle à Londres et arrête son mari pour entrave à la justice dans une sombre affaire de tabassage de barman. Un type bien, ce Blake, vraiment. Blake est en prison, Amy le vit mal, elle le vit si mal qu'un soir en plein concert à Birmingham, elle craque. Déjà peut-être le fait d'être à Birmingham, mais aussi peut-être le manque de Blake. Un journaliste présent dans la salle commente « Une artiste talentueuse, mais une artiste en larmes, trébuchant sur la scène et insultant honteusement son public. » Chez nous, ça s'appelle du théâtre subventionné, monsieur Télérama aura lâché 3T. Et vous avez peut-être les images en tête d'elle recevant ses Grammy Awards en duplex de Londres. Elle est toute seule dans une salle à Londres. Une idée de pourquoi elle n'avait pas fait le voyage aux États-Unis ? Ça vous dit rien, ces images ? Moi, je m'étais toujours demandé. Eh ben oui, effectivement, elle ne pouvait pas juridiquement, vu ses démêlés avec la justice et ses problèmes de drogue, ils n'ont jamais accepté de lui délivrer un visa. Alors, à partir de là, c'est terrible, mais on sent que Amy a déjà pris la carte de membre au club des 27. En 2009, petite lueur d'espoir, elle parvient à se séparer de Blake. Loin de cette relation toxique, ses fans espèrent qu'elle va pouvoir se ressaisir, retrouver l'inspiration et qui sait, réussir peut-être un jour à finir un concert. Elle essaye en tout cas de remonter la pente, accepte d'aller voir un psy. Il n'y a aucune honte à aller voir un psy. Même Stéphane voit un psy en ce moment pour, disons, d'autres types de problèmes.
C'est que ça dicte. Oui. C'est vraiment une maladie ?
Oui, monsieur Bern, mais ça se soigne. Hélas, trois fois hélas, rien n'y fait. Amy a beau se débattre contre ses addictions, la tenir à distance quelques semaines, quelques mois, le manque est trop fort et finit toujours par surgir, d'autant que les tabloïds s'acharnent contre elle, écrivent parfois des choses ignobles.
En plus d'être vilaine, elle ne fait rien de ses journées paresseuses. Oh. Elle ne se distrait qu'avec les potins et l'alcool qu'elle consomme jusqu'à l'ivresse, au moins trois soirs par semaine.
Honte à vous, Stéphane. Vous acharnez ainsi sur une jeune femme qui tente de s'en sortir. Elle accepte même de s'exiler à Sainte-Lucie, dans les Caraïbes, pour se sevrer. Et là, alors qu'elle tente de s'éloigner de son entourage nocif, qui elle voit débarquer ? Daddy pas cool, Daddy relou qui débarque pour lui remonter le moral, prendre de ses nouvelles, la sauver, peut-être c'est sa fille. Non, il débarque avec une équipe de télé pour la filmer dans son sevrage et faire du blé. Ce papa, à la fois aimé et détesté à qui elle lance, « Pourquoi écris-tu ma vie à ma place ? Tu as besoin d'argent pour te comporter ainsi ? Je pouvais t'en donner. » Tout est dit. Aussi bien entourée, Amy reçoit son abonnement définitif au Club des 27 en juin 2011. Elle sort une fois de plus de scène sous les huées à Belgrade. La tournée est encore annulée. Elle ne le sait pas, mais il s'agira du dernier concert de sa très courte carrière. La murge finale, elle intervient le 23 juillet 2011. C'est un de ses gardes du corps qui la retrouvera sans vie, avec 4,16 g d'alcool dans le sang, battant ainsi au passage le record d'Olivier Pouls le soir de ses 45 ans, on s'en souvient. À bon entendeur, je vous laisse méditer le triste destin d'Amy Winehouse. Et à titre personnel, je me félicite de ne pas évoluer dans ce milieu propice aux excès qu'est l'industrie musicale. Et je me réjouis de travailler à Europe 1 avec des collègues sains et respectueux des lois, comme vous me le prouvez à chaque coupure pub.
Il n'est pas là, caché là. Il est en train de se faire un bon rail dans les toilettes.
J'ai choisi le bon milieu.
Ah oui, la bonne équipe, la fine équipe. Merci Mathieu. C'était 99% vrai,
surtout,
donc 1% de
surtout sur son père.
Il y a un cœur qui bat.
Sous le fiel.
Oui, mais en fait, n'oubliez pas une chose, son père est son héritier, puisqu'il n'a pas eu d'enfant.
Mais c'est... oui, c'est encore plus retors.
C'est encore plus sordide,
Stéphane. Oui.
Mais c'est horrible cette histoire.
C'est une histoire.
Moi, j'aimais bien. Écoutez, vous m'avez ému là, vraiment, Mathieu.
Séchez vos larmes, ouais, Stéphane. Ouais. Il faut enchaîner.
Europe 1, historiquement vôtre.